Vous écoutez, on lit pour vous.
Les bouteilles en aluminium distribuées au Festival de jazz, un incitatif au gaspillage. Un texte de Sarah Collardet, paru le 4 juillet 2025 dans Le Devoir. Plus de 150 000 bouteilles en aluminium produites en Alberta et contenant de l'eau de Calgary sont distribuées gratuitement au Festival international de jazz de Montréal, FIJM, par Rio Tinto, un des principaux partenaires de l'événement. Une initiative loin d'être éco-responsable et même un incitatif au gaspillage, selon un expert consulté par Le Devoir. C'est un incitatif au gaspillage. Personnellement, je refuserais cette bouteille si on me la donnait, clame Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, FCQGED. Ces bouteilles nous poussent à surconsommer un produit qu'on ne demande pas nécessairement, quelque chose dont les gens n'ont pas forcément besoin à la base, explique-t-il en entrevue. Partenaire du FIJM depuis 2006, Rio Tinto distribue ses bouteilles d'eau dites réutilisables depuis 5 ans. Cette année, ce sont plus de 153 000 d'entre elles qui seront distribuées sur toute la durée de l'événement. Le Devoir a testé la bouteille avec M. Ménard. Premier constat, l'intérieur n'est pas isolé. Puisque le festival a lieu en été, l'eau peut rapidement se réchauffer et ne plus être buvable. Bien que le porte-parole de l'industrie de l'aluminium, Jean Simard, affirme que les bouteilles peuvent être réutilisées sur le site, le bouchon n'est pas facile à revisser et n'a pas été conçu pour durer longtemps, déplore M. Ménard. Après l'avoir examiné, l'expert en gestion écologique des déchets statue finalement « Sur une note de 10, je lui donnerai 2, parce que le design est joli ». Un long chemin. Les bouteilles colorées sont remplies d'eau des Rocheuses canadiennes par North Water, une entreprise établie à Calgary. De plus, les canettes et les bouteilles en aluminium ne sont pas recyclées au Québec. Elles doivent être transportées jusqu'aux États-Unis pour pouvoir être recyclées. Ça fait quand même plusieurs milliers de kilomètres pour nous acheminer de l'eau dans une bouteille d'aluminium, fait valoir l'expert. Par ailleurs, pour que la bouteille soit recyclée, encore faut-il que les festivaliers la mettent dans les bacs à recyclage. Karel Ménard s'explique mal la stratégie de promotion qui se cache derrière cette bouteille. Rio Tinto n'est pas nécessairement une industrie qui est à la recherche de clients, affirme-t-il. De plus, l'apparence colorée et attrayante du produit incite les gens à prendre la bouteille simplement parce qu'ils la trouvent belle, même s'ils ont déjà une gourde dans leur sac. Jean Simard, directeur de l'Association Aluminium du Canada, fait valoir que Rio Tinto est l'un des plus grands producteurs d'aluminium au monde et que la distribution de ces bouteilles est une façon de partager cette vision-là avec le public montréalais. Merci de me recycler. Le Devoir s'est rendu sur le site du FIJM. En fin de soirée, après les spectacles, malgré la mention « Merci de me recycler » figurant sur la bouteille, beaucoup finissent au sol ou dans des poubelles ordinaires, sans garantie qu'elles seront recyclées. Le directeur général du FCQGED fait valoir que lors de grands événements, les gens ne font pas nécessairement attention. Ils voient une poubelle ou un bac, peu importe, ils mettent ça là-dedans. De son côté, le porte-parole de l'industrie de l'aluminium soutient que le taux de récupération des contenants d'aluminium au Québec est parmi les plus élevés au monde et que les bouteilles d'eau vont se retrouver en refonte et seront réutilisées pour faire d'autres contenants d'aluminium. C'est une boucle fermée, souligne-t-il. Des fontaines à eau disponibles. Depuis plusieurs années, de nombreux festivals montréalais mettent à disposition du public des fontaines à eau sur leur site et encouragent les visiteurs à apporter leur propre gourde dans une optique écologique. le FIJM devrait suivre cette voie, estime M. Ménard, en faisant la promotion du réemploi, plutôt que de distribuer un nouveau contenant à usage incertain. D'autant que des fontaines à eau sont déjà disponibles sur le site du festival. M. Simard explique que c'est déjà une belle solution qui est mise de l'avant dans un contexte de festival international où, selon lui, les gens ne débarquent pas de Paris ou de New York avec leurs gourdes personnelles. C'était les bouteilles en aluminium distribuées au festival de jazz, un incitatif au gaspillage. Un texte de Sarah Collardet, paru le 4 juillet 2025 dans Le Devoir.
Utile les oméga-3 quand on mange peu de poisson? Un texte de Catherine Handfield, paru le 27 juillet 2025 dans La Presse. Pour répondre à cette question, La Presse s'est entretenue avec deux chercheurs en nutrition, Michel Lucas, docteur en épidémiologie nutritionnelle, et May Farage, qui s'intéresse aux mécanismes menant au développement des maladies cardio-métaboliques. Ils apportent deux éclairages différents. Michel Lucas, le poisson d'abord. Michel Lucas s'est beaucoup intéressé aux oméga-3 en début de carrière, dans la foulée de ses études postdoctorales à l'Université Harvard. Citation : Il y a quelques années, j'aurais dit « Oui, prenez le supplément, il n'y a pas de problème », confie le professeur de l'Université Laval. « Mais je m'aperçois que le problème, ce n'est pas ce que les gens mangent, c'est ce que les gens ne mangent pas. Si les gens mangent plus de poissons, ils vont manger moins de viande, ils vont manger moins d'autres choses parce qu'il y a un effet de remplacement. » Fin de citation. À ses yeux, c'est d'abord le poisson qu'il faut apprendre à aimer et c'est en apprenant aux gens à cuisiner, en leur donnant des outils, qu'on peut y arriver. Le saumon sauvage poché surmonté de salsa verde, c'est délicieux, glisse le professeur, aussi chef diplômé. Selon lui, il ne faut pas tomber dans le piège du réductionnisme nutritionnel, c'est-à-dire analyser les aliments en fonction de leurs nutriments individuels au lieu de les considérer dans leur ensemble. Dans le poisson, dit-il, il y a beaucoup plus que les oméga-3. Citation. Et qu'est-ce qu'on partage en prenant une pilule? Voici, mon fils, ma fille, il faut que tu prennes une pilule. Belle transmission. Fin de citation. Pas très puissant. L'intérêt pour les oméga-3 ne date pas d'hier, souligne Michel Lucas. Dans les années 1970, des études épidémiologiques ont mis en lumière le faible taux d'infarctus chez les Inuits du Groenland et chez d'autres populations friandes de poissons. Dans les décennies suivantes, des scientifiques ont réalisé plusieurs essais cliniques sur les oméga-3, certains à très large échelle. Des études ont été menées aussi bien en prévention primaire, pour empêcher l'apparition d'une maladie, qu'en prévention secondaire, pour éviter une récidive. Ces grosses études en sont arrivées à des conclusions variables, parfois contradictoires. Des scientifiques ont produit des revues systématiques, soit des synthèses de toutes les données disponibles. Citation : La revue Cochrane, publiée en 2020, est la plus complète portant sur les impacts des oméga-3 d'origine marine sur la santé cardiovasculaire. Fin de citation, indique Michel Lucas. Les chercheurs ont observé une diminution de 10 % du risque cardiovasculaire. Citation, pour sauver un patient, il faut en traiter 334, souligne le professeur. Ce n'est donc pas très, très puissant. Fin de citation. May Farage, oméga-3 et prévention. Chercheuse à l'Institut de recherche clinique de Montréal, IRCM, et professeure à l'Université de Montréal, May Farage s'intéresse depuis 14 ans aux oméga-3. Si les conclusions des grands essais cliniques varient, dit-elle, c'est parce que le type d'oméga-3, le dosage, le type de placebo et les populations étudiées varient aussi d'un essai à l'autre. Citation, « Il n'existe pas de diète fits-all », fin de citation, souligne May Farage. On peut donc penser que certaines personnes, plus que d'autres, auraient particulièrement avantage à prendre des oméga-3. Dans ses recherches, Mefarage s'intéresse à la prévention, par la nutrition, du diabète de type 2, une maladie chronique qui augmente d'ailleurs le risque de souffrir de maladies cardiaques. Ces études montrent que les patients à risque de développer un diabète de type 2 auraient tout avantage à consommer des oméga-3. Citation. On a montré que, si on donne des oméga-3 pendant 3 mois à des gens qui ont les LDL augmentés, les particules qui transportent le mauvais cholestérol dans le sang, on peut améliorer l'inflammation du tissu adipeux et éliminer l'association de l'inflammation avec plusieurs facteurs de risque de diabète de type 2 dans la circulation. Fin de citation, explique Madame Farage. Le poisson, souvent insuffisant. Pour exprimer le profil d'une personne en matière d'oméga-3, des chercheurs ont proposé l'indice oméga-3. C'est une mesure, en pourcentage, des oméga-3 dans les membranes de globules rouges. Chez les Occidentaux, l'indice se situe généralement entre 3 et 5 % mais plusieurs grosses études populationnelles ont associé une meilleure santé à un indice oméga-3 de 8 % et plus. Comment atteindre ces 8 % Selon une étude citée par Mefarage, la vaste majorité des participants qui consomment une ou deux portions de poisson par semaine n'atteignaient pas les 8 %. Pour y arriver, sans prendre de suppléments, il faudrait consommer 4 portions de poisson gras par semaine, une cible que peu de gens sont capables d'atteindre, souligne Mefarage. Et même en prenant un supplément d'oméga-3 selon les indications sur la boîte, en moyenne 800 mg, la plupart des gens n'atteignent pas 8 % montre cette même étude. Qui l'atteignait alors? Parmi les personnes consommant 2 portions de poisson et plus par semaine, seules celles prenant également en moyenne 1,1 g de supplément d'EPA plus DHA présentaient un indice de 8 % ou plus. Et parmi les participants qui ne mangeaient pas de poisson, c'est ceux qui prenaient au moins 1,3 g de supplément par jour qui atteignaient les 8 %. Recommandations officielles. Les grandes organisations de santé reconnaissent le poisson gras, truite, hareng, saumon, maquereau, etc., comme faisant partie d'une saine alimentation. Sur le site du gouvernement du Québec, on indique que la consommation de 2 portions de poisson gras par semaine fournit l'équivalent de 300 à 500 mg d'acide gras oméga-3 chaque jour. L'American Heart Association conseille aussi de consommer au moins 2 portions de poisson par semaine. Aux gens ayant des antécédents de maladies cardiovasculaires, l'AHA conseille aussi la prise de suppléments. 1 g par jour d'une combinaison d'acides écossa-pentaénoïque, AEP, et d'acides docosahexaénoïque, ADH, les types d'oméga-3 qu'on trouve principalement dans le poisson gras. Santé Canada approuve depuis 2020 un traitement nommé VASEPA, constitué de 4 g d'AEP. Celui-ci peut être prescrit aux patients qui prennent déjà un médicament contre le cholestérol et qui ont un taux élevé de triglycérides dans le sang pour prévenir des récidives d'événements cardiovasculaires. Enfin, dans sa monographie pour la mise en marché de suppléments en oméga-3, produits de santé naturelle, Santé Canada accepte des posologies allant jusqu'à 5 g par jour et permet d'inscrire différents usages: santé cardiovasculaire, santé cognitive, arthrite rhumatoïde, lipides sanguins, humeur. C'était « Utile les oméga-3 quand on mange peu de poisson? » Un texte de Catherine Anfield, paru le 27 juillet 2025 dans La Presse.
Nourrir un bébé naissant. Un peu de douceur, s'il vous plaît. Un texte de Camille Lorrain-Desjardins, paru le 7 juillet 2025 dans Urbania. Urbania s'allie à la préparation pour nourrissons, bon départ, pour vous rappeler qu'en tant que parent, vous êtes les meilleures personnes pour décider de la voie lactée à emprunter avec votre bébé et que ceux qui ne seraient pas d'accord avec votre choix peuvent bien aller boire ailleurs. Nous sommes en mars 2016. Ma première fille est née il y a à peine une semaine et nous préparons notre première sortie en famille. J'utilise des guillemets parce que je ne sais pas si on peut considérer que des funérailles,
c'est hot au point d'être sur la bucket list des premières sorties de nourrissons. Sur la route, on arrête s'acheter du café pour survivre cette journée qui s'annonce hautement émotive, surtout après une nuit plutôt courte. Je me permets d'utiliser une fois de plus les guillemets et je pense que tous les nouveaux parents comprendront pourquoi. Mon ex, le papa de mes filles, prend le petit tétrapack de préparation pour nourrissons et le place dans le cabaret de transport avec nos cafés. On trouve ça cute. On prend une photo que je n'ose cependant pas publier sur mes réseaux sociaux. Et si on me reprochait de ne pas allaiter exclusivement mon bébé? Votre bébé, votre choix. Je ne m'en cacherai pas. Les préparations pour nourrissons ont fait partie de l'alimentation de ma fille dès les premiers jours après sa naissance. J'avais pris cette décision après l'explication des infirmières qu'un bébé né par césarienne pouvait avoir plus de difficultés à téter au début. Et au cours de ses premiers jours de vie, mon petit bébé pas de cheveux avait effectivement beaucoup de mal à se nourrir et s'est donc mis à perdre du poids. Levez la main, les parents qui ont capoté à se faire dire à chaque pesée que leur nouveau-né avait encore perdu 0,25% de son poids. Puisque ma fille n'arrivait pas à téter, mon inquiétude a monté en flèche. Une conseillère en allaitement est alors venue me rendre visite pour étudier sa prise du sein. Malgré tous ces conseils que je suivais à la lettre, mon constat était que ça marchait moyen. Rapidement, j'ai commencé à me décourager. Alors, on nous a conseillé de donner à la petite un peu de préparation à l'aide d'un minuscule tuyau que je fixais sur mon sein pour qu'elle reçoive comme une double ration de lait. Et ça a marché. Elle a recommencé à prendre du poids, la petite maudite, en plus de continuer d'être cute à mort. Dans les jours qui ont suivi, l'allaitement se passait de mieux en mieux, si bien que j'ai commencé à avoir des fissures sur les mamelons. Sans fun, hein? Mais j'ai continué d'allaiter ma fille, les orteils frisés et les dents serrées. Quand mes pauvres mamelons ont fini par guérir et que je pensais enfin voir le bout, appognez-vous, mon allaitement était malheureusement toujours loin d'être à son top parce que mon bébé finissait toujours par s'endormir au sein, sans jamais boire assez. C'est donc à ce moment que j'ai décidé que ma santé mentale était plus importante que l'allaitement. J'ai arrêté d'allaiter et chez nous, les biberons de préparation pour nourrissons sont devenus la norme. Bye-bye, la culpabilité. Je l'avoue, je me suis longtemps senti coupable de mon choix. J'ai aussi jalousé les mamans qui vantaient tous les bienfaits de l'allaitement en soulignant à quel point c'était facile pour elles. Évidemment, l'allaitement, c'est super et on en connaît tous les bienfaits. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme on voudrait. Et parfois, on n'a juste pas envie d'allaiter, pour toutes sortes de raisons qui ne concernent que nous. Et c'est correct. On ne devrait pas porter tout le poids de l'humanité sur nos épaules déjà pleines de régurgites, parce que ça, que le lait soit maternel ou pas, on ne s'en sauve pas. Surtout que, je vous fais une confidence, quand j'ai eu mon deuxième bébé, il s'est passé à peu près la même chose, sans l'histoire des funérailles, je vous rassure. 9 ans plus tard, quand je repense à cette fameuse photo des 3 boissons essentielles à notre expédition, j'aurais envie de donner une petite tape dans le dos à la nouvelle maman que j'étais, et aujourd'hui je la publierai sans hésiter. Finalement, je vous souhaite de trouver la méthode qui vous convient, quelle qu'elle soit. Et si la cousine de votre belle-sœur vous juge, ben, tant pis pour elle. Parce qu'on s'entend qu'être parent, c'est un peu accepter que quelqu'un, quelque part, va nous juger, peu importe les choix qu'on fait, puis qu'il faut apprendre à s'en foutre un peu. C'était « Nourrir un bébé naissant, un peu de douceur, s'il vous plaît », un texte de Camille Lorrain-Desjardins, paru le 7 juillet 2025 dans Urbania.
Une nouvelle association pour les énégués de Québec. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 29 juillet 2025 dans le magazine Fugue. Depuis le printemps 2024, l'organisme Les Énégués de la capitale, Québec, organise diverses activités communautaires dans la belle région de Québec. Celles-ci visent à briser l'isolement des gays de 50 ans et plus à Québec et dans les environs, Mauricie, Charlevoix, Rive-Sud de Québec, etc. Ces activités permettent d'apporter du soutien social aux personnes plus vulnérables, tout en offrant la possibilité d'élargir leur cercle d'amis. Des séances de cinéma bi-hebdomadaires, ciné samedi, la mise en place d'un groupe de discussion, parler pour parler, la création d'un club de lecture, rencontres mensuelles, des soirées de jeux de société, des sorties organisées dans divers lieux d'intérêt de la région de Québec, un club de marche, la préparation de repas sur une base communautaire, cuisine collective, un club d'écriture. Voilà autant d'activités mises en place par les énégués de la capitale, Québec. À ces nouvelles activités s'ajoutent des événements préexistants, comme le groupe de quilles, le vendredi, et les vieux amis qui organisent des soupers communautaires, des 5 à 7, etc., apprend-on également. Et d'autres projets sont déjà sur la table à dessin. On ne veut pas retourner dans le placard. Le premier dimanche de chaque mois, près d'une trentaine de ces hommes se retrouvent au Chez Cora, 1020 route de l'Église à Québec, dès 10 heures. Les brunchs fonctionnent très bien. Il y a toujours pas mal de monde qui y participe, confie Patrick Dessureau, un des responsables de l'organisation. Nous avons même reçu des gens de l'ARCG, Association des retraités de la communauté gay, de Montréal, venus à nos brunchs. Cela brise déjà l'isolement de pouvoir se réunir, de manger ensemble. On souhaite que les gens créent des liens d'amitié entre eux. En effet, tout comme pour l'ARCG à Montréal il y a quelques décennies, la toute première activité qui a jeté les bases de l'association fut un brunch lancé par Maurice Mignot et Patrick Dessureau en avril 2024. On constatait qu'il ne restait plus grand-chose à Québec pour réunir des hommes. Il y a deux bars, dont un est principalement hétéro, et il n'y a rien d'autre, ni à Lévis, ni à Charlevoix, ni ailleurs près de Québec. Il y a bien le Gris, mais c'est pour les jeunes. On s'est donc dit qu'il fallait créer une activité comme le brunch pour briser l'isolement. On constate une augmentation de l'homophobie dans la société. Beaucoup de gens ne sont plus très à l'aise et craignent de devoir retourner dans le placard. Moi non plus, je n'ai pas envie d'y retourner. C'est pourquoi on souhaite organiser des activités où les gens peuvent se rencontrer et échanger, indique celui qui a pris sa retraite en 2021 après une carrière dans la fonction publique provinciale. C'est aussi pour cela qu'aucune photo ne figure ici. Plusieurs participants craignent d'être reconnus et de subir de la discrimination. Oui, même en 2025. Des activités à venir dès l'automne. Cet automne, un 5 à 7 sera organisé quelque part afin de permettre aux gens de socialiser. Les brunchs attirent beaucoup de monde, mais on travaille à créer de nouvelles activités pour l'automne. Quelque chose d'intéressant, encore une fois pour sortir les gens de l'isolement, répète Patrick Dessureau. Les membres du groupe des énégués de la capitale, Québec, ne sont pas seuls. Une collaboration a été mise en place avec Miel Québec dans le but, entre autres, de trouver des conférenciers pour le groupe Parler pour parler sur divers sujets. Patrick Dessureau, qui travaille aussi à temps partiel dans un centre de loisirs, précise que les activités du groupe sont également affichées dans les locaux de Miel Québec. Mieux faire connaître l'association. Après un peu plus d'un an et une moyenne de 50 personnes inscrites aux différentes activités, l'heure est venue d'élargir la base de participants. Jusqu'ici, la publicité reposait principalement sur le bouche-à-oreille. Nous souhaitons mieux faire connaître notre groupe auprès des Énégués de Québec et des environs, souligne l'organisateur principal. C'est aussi pourquoi nous tiendrons un kiosque d'information pendant Fierté de Québec. On sait que des gens viennent de Montréal, de la Rive-Sud et des régions environnantes. On veut leur faire savoir que notre groupe existe et qu'on offre des activités pour les Énégués. C'est également dans cet esprit que nous lançons un appel d'enfugue. Notre but premier demeure de briser l'isolement, car beaucoup de gens sont seuls, bien plus qu'on le croit. Pour l'instant, l'information est relayée sur une page Facebook, mais un site web devrait voir le jour prochainement. Des coûts accessibles à tous. Nous ne recevons aucune subvention pour l'instant. On a commencé avec mon argent de poche, poursuit-il. C'est pourquoi on demande une contribution de 5 $ lors des brunchs pour couvrir certains frais. Il faut de la persévérance, mais c'est très stimulant de pouvoir aider les gens. Et toutes ces activités doivent, autant que possible, rester gratuites. On essaie de trouver des locaux à bas prix, comme la bibliothèque pour le groupe Parler pour Parler, ou encore le YMCA pour la cuisine collective. Notre objectif, c'est aussi d'aider les gens, parce que tout coûte plus cher, les loyers, la nourriture, etc. Ici, les gens peuvent cuisiner et repartir avec leurs plats. Ça aide les personnes plus démunies, car oui, il y en a dans notre association, et il faut penser à elles aussi. C'est une super belle activité qui se déroule dans le plaisir, ajoute Patrick Dessureau. Un été sous le signe du repos. Cet été, on va garder seulement quelques activités comme les brunchs, les quilles et les marches, et on reprendra l'ensemble de la programmation en septembre, conclut Patrick Dessureau. Alors, gens de Québec, des environs ou de passage dans la région pour la fierté de Québec, prenez le temps d'aller saluer les responsables et bénévoles des Énégués de la capitale Québec lors de la journée communautaire. C'était une nouvelle association pour les Énégués de Québec. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 29 juillet 2025 dans le magazine Fugue.